c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de cette nouvelle édition de Chute, on écoute la télé, l'hebdo, aujourd'hui on va consacrer une large partie de l'émission à la sortie du film J'adore ce que vous faites, le nouveau film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus et Antoine Bertrand. On va recevoir le réalisateur dans une poignée de secondes, Philippe Guillard, accompagné de Antoine Bertrand qui nous vient du Québec, exprès de Artus également, qui seront donc nos invités exceptionnels aujourd'hui. On va parler aussi de Soufiane Guérab avec justement Vision, qui est diffusé ce soir sur TF1. Soufiane sera notre invitée également d'ici quelques minutes. Spécial ad hoc Helvéto également, épisode 2 demain soir sur France 3. Toute l'équipe est là, Thierry Binisti, Gabriel Gérin, la directrice des terres, Christian Gérin, le producteur Michel Simès, Dunia Cossins, tout le monde se retrouve avec nous pour cette spéciale. On va parler également de La Faute à Rousseau. La série revient pour une deuxième saison inédite mercredi sur France 2. Le réalisateur Octave Raspail, la productrice Lou Gauthier et le héros Charlie Dupont seront avec nous en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer. Alors on va démarrer tout de suite avec notre spécial J'adore ce que vous faites.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au nouveau film de Philippe Guillard, J'adore ce que vous faites. Philippe Guillard qui est notre invité, qui sera rejoint dans un instant par Antoine Bertrand également, qui joue le rôle du metteur en scène. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Moi, j'ai adoré vos précédents films. J'ai adoré Papy Sitter, Le Fils à Joe. J'ai adoré vraiment les films que vous avez fait avec Gérard Lanvin déjà. Juste avant, c'est un nouveau film que vous faites avec Gérard Lanvin. Mais la petite nuance là, c'est qu'il joue son propre rôle. Ça, c'est malin quand même.
Ouais, c'est malin, je sais pas. Mais c'est dans l'air du temps, hein. Je devrais donner des droits d'auteur à Dominique Besnard, qui a créé la...
Série 10%.
10%. Donc, j'aurais pu appeler ce film 90%, peut-être. Mais non, je pense que c'est dans l'air un peu, c'est dans l'air du temps. Mais j'avais toujours eu envie, parce que j'ai quand même fait pas mal de films avec Gérard, donc j'ai vu comment c'était en promo, où il est très vite envahi, donc, parce qu'il est très populaire. En fait, c'est un des acteurs les plus populaires aujourd'hui en France, c'est-à-dire quand je parle populaire dans le bon sens du terme, mais partout en France, quoi. C'est Camping, il a fait des films très populaires, Marche à l'ombre, Les Spécialistes et tout. Donc du coup, Gérard Lanvin, c'est Gérard Lanvin. Donc je lui ai proposé parce que je voyais, parce que moi, évidemment, je suis beaucoup moins envahi dans le cinéma. Personne ne m'embête de trop. Donc personne me connaît. Donc du coup, j'observe. J'ai la meilleure passe. Je suis sur le tabouret et je regarde Gérard se faire envahir. Et ça m'a toujours fasciné. Et du coup, j'ai décidé de lui proposer cette idée-là. Et on ne pouvait le faire qu'avec un acteur connu, mais aussi qui joue son propre rôle, parce qu'on ne pouvait pas inventer un acteur, sinon il n'y aurait pas de référence quand dans le film, Momo lui parle de tous les films qu'il a fait.
Ouais. Ah oui, là c'est très très réaliste. Et puis c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce que ça peut être difficile de convaincre un acteur comme Gérard Lanvin de jouer son propre rôle comme ça, comme ça pourrait être difficile de convaincre un autre acteur, mais est-ce qu'il était difficile lui à convaincre?
Alors, Gérard, il est pas... D'abord, il a confiance en moi, parce qu'on a quand même fait pas mal de films ensemble. Et deuxièmement, c'est pas difficile de convaincre un acteur sur une idée, c'est difficile de le convaincre sur un scénario. Mais sur l'idée, Gérard a tout intérêt à dire. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Il m'a dit pourquoi pas. Il m'a dit oui. Il m'a dit allez, écris-le et je vais voir. Voilà. Donc moi j'écris un peu à vide parce que je me dis, bon, si ça lui plaît pas, j'ai passé 4 mois pour rien. Mais en fait, avec Gérard, on se parle beaucoup. Donc on se voit souvent, donc moi je lui racontais des scènes. Ben, des fois je l'appelle, j'ai tombé sur une scène, ça me faisait marrer. Et ça me faisait marrer. Et du coup, au fur et à mesure, il commençait à s'attacher aussi à ce projet.
Et une histoire de confiance qui s'est créée entre vous aussi, oui, au fur et à mesure des films.
Oui, oui, oui. Puis vous savez, on se voit souvent avec Gérard. On a habité pas loin. Ensuite, quand je fais des films, moi je vis avec mes acteurs. Donc on vit ensemble, donc on se connaît bien. On vit 2 mois ensemble, on est tous les jours ensemble. Le soir, on est ensemble. Ça fait, on connaît nos vies, quoi. On n'est pas juste là pour tourner. Puis il avait confiance. Après, peut-être que je me serais planté, qu'il m'aurait dit, ah, ouais, on a aussi travaillé parce que on s'était interdit tout ce qui était vie privée, c'était interdit. Mais j'ai essayé. Et puis la vérité est toujours au milieu, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai poussé un peu le bouchon à l'écriture et il disait, il me dit, ah non, je peux pas dire ça. C'est drôle, mais je peux pas dire ça. Du coup, on a fait un Gérard Lanvin bio.
En tout cas, c'est super malin. On y suit évidemment Gérard Lanvin qui arrive sur un tournage, une super production internationale, le rôle qu'il peut pas rater, bien évidemment. Rien ne se passe comme prévu. Première chose, il arrive dans la maison qu'on lui prête, la piscine est toute verte. Et là arrive Momo qui va être son sauveur, mais aussi son pire fan.
Bah oui, c'est le pitch du film.
Et incarné par Artus, mais alors de manière mais juste grandiose, quoi.
Ouais, il fait une remarquable prestation, Artus. On a beaucoup travaillé, mais il a beaucoup inventé et il s'est régalé à faire du Momo, mais avec l'inspiration d'Artus. Donc on faisait 3 momos. On faisait le Momo 1, le Momo 2 et le Momo 3. Voilà. Donc sur chaque, on faisait des prises et au bout d'un moment, les 2 dernières prises, je disais maintenant, allez, Momo 3, Momo 8, fais ce que tu veux. Et là, il partait en vrille. J'ai pas toujours retenu les trucs, mais il y a eu des petits bonbons comme ça parce qu'il est très inventif, il est très drôle et on lui doit d'ailleurs, je lui dois pour moi la plus belle scène du film, c'est quand il fait cette répétition avec Gérard et avec tous les ustensiles qu'un pisciniste peut avoir, comme si c'était un tournage de
un pont et dans un décor sublime en plus et de nuit.
De nuit, ouais.
On voit un peu les coulisses du coup d'un tournage à travers ce film. Du coup, est-ce que ça permet de moins cacher toute la technique, de moins cacher les camions de tournage, de moins cacher le matériel en quelque sorte?
Bah oui, on s'en fout.
C'est dans le champ.
C'est même conseillé qu'on ait l'impression. Quand il y a du monde derrière, on s'en fout. Quand on voit des figurants qui sont en train de porter des caisses, des trucs et des machins, on s'en fout. Donc c'est plus confort. Mais évidemment, ça s'organise quand même. Mais c'est moins grave. Mais c'est quand même un boulot parce que c'est pour le rendre le plus crédible possible. Après, on a justifié le fait que on avait des camions et tout. Il y a 2 scènes où là, quand l'hélicoptère, le truc, on a l'impression que avec ce mec, un copain à moi qui est commentateur de rugby gallois et qui fait ce chef technique, cette espèce de racoleur là et qui parle en américain et tout, on a l'impression que on a un tournage avec plein de camions et tout. Donc voilà, ça on se l'est fait, mais le tournage en lui-même américain n'est pas vraiment forcément crédible. Il est juste sauvé parce que dans la fantaisie, comme on a affaire à un Antoine Bertrand qui joue donc le rôle d'un metteur en scène un peu fantasque.
Et qui va arriver dans un instant pour nous en parler de Bob.
Et donc du coup, on peut imaginer que comme il est fantasque, c'est un tournage américain qui pourrait être fantasque aussi, quoi. Donc voilà, c'est sauvé par ça.
Bon, vous avez beaucoup rire, moi en tout cas. Et puis on en a besoin en ce moment. Moi, j'ai eu la chance de le voir il y a quelques mois maintenant à l'Alpe d'Huez. Le film est très très drôle. Artus, Antoine Bertrand qui va nous rejoindre. Et puis Gérard Lanvin, bien sûr, dans son propre rôle. Et toute une pléiade d'acteurs autour qui vous attend. On va écouter la bande-annonce. Ça s'appelle J'adore ce que vous faites. Philippe, merci d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous. C'était très sympa. C'est cool. Merci beaucoup.
Antoine Bertrand nous rejoint juste après la bande-annonce.
Vous êtes pas Gérard Lanvin?
C'est pour ma femme, elle vous adore.
Bonjour, j'ai réparé la piscine. Oula, vous avez chié dedans, quoi.
Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin.
En plus petit.
Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais.
Mais non.
Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir sur tournage?
Ouais, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais pas demain, parce que c'est mon premier jour, j'aimerais être tranquille.
Allez, on continue à parler de ce film J'adore ce que vous faites avec Antoine Bertrand qui est notre invité après être venu au mois de mars pour ce magnifique film de Nadège Loiseau, 3 fois rien. Et bien Antoine est de retour pour ce film de Philippe Guillard. Bonjour Antoine.
Toujours un plaisir Alain.
Merci d'être avec nous. Et alors là, tu joues le rôle d'un metteur en scène québécois qui vient remplacer au pied levé le réalisateur d'un film américain, rien que ça.
Exactement, rien que ça. La veille du tournage, mon personnage débarque et puis évidemment le personnage de Gérard Lanvin qui s'attendait à travailler avec une grosse pointure américaine, là tout d'un coup se retrouve avec une grosse pointure, mais en termes de physique, québécoise.
Alors ton rôle, comment tu le définirais, le rôle de Bob, en quelques mots?
Écoute, c'est un réalisateur aux méthodes, je dirais, un peu louche, un peu saugrenu, atypique. Il va à fond dans la métaphore animalière. Il veut forcer Gérard à trouver son animal en lui. Et puis ça donne que c'est tous des animaux, évidemment, qui viennent de chez nous, du Québec. Fait que il est pas très efficace, mais il est très divertissant.
Alors tu dois faire évidemment avec ce tournage avec Gérard Lanvin, quand même une grande pointure du cinéma français, qui joue son propre rôle, et surtout Momo, le fan un peu envahissant que tu dois tenter en quelque sorte de canaliser, mais c'est pas gagné.
Ben non, c'est pas gagné parce que Momo, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop tout le temps. Donc mais il se lie d'amitié parce que je sais pas, il y a des atomes crochus déjà, j'ai l'impression que c'est son jumeau français. Donc à un moment donné, les deux se trouvent et là tout d'un coup, ben Gérard Lanvin n'a plus d'alliés, tu sais, pour détester Momo. Tout le monde aime Momo et puis Gérard Lanvin se retrouve tout seul de sa gang à le trouver un peu lourd.
C'est chouette d'avoir un film où tu vois les coulisses d'un film, en fait. Parce que du coup, c'est plus pratique. Il y a peut-être moins de rangements techniques à faire. On voit un peu la vraie équipe technique, en fait, en quelque sorte aussi.
Mais à chaque fois que ça arrive, ça, parce que c'est arrivé souvent que j'ai tourné dans des trucs où on voit justement une mise en abîme avec le tournage dans le tournage. Il y a toujours un moment où le comédien ne sait plus où regarder. Parce que t'as la caméra du film, t'as la caméra qui joue le rôle de la caméra dans le film. Donc, ça fait toujours, non, c'est ça, il y a pas d'économie parce que c'est tout en double. Toute l'équipe technique, les silhouettes qui jouent, les techniciens. Donc, à un moment donné, ça devient un peu confondant tout ça. Tu sais, où est-ce que je regarde? Lui, j'ai le droit de lui demander un café ou c'est un acteur? On ne sait plus, mais pour le public, ça rend le truc très intéressant parce que justement, ben, ça montre l'envers du décor, ça montre à quel point c'est technique, c'est compliqué, c'est long, il y a beaucoup d'attentes. Puis moi, c'est la première fois que je le voyais quand on le diffusait à l'Alpe d'Huez. Puis une comédie grand public qui est drôle, qui est toujours intelligente, puis qui est très attachante, c'est l'affaire la plus dure à faire. En cinéma, là, c'est le truc le plus dur à accomplir. Puis je trouve que Philippe l'a réussi de main de maître. Puis je sais pas, pour nous lancer des fleurs, c'est vraiment, en tant que fan de comédie, c'est une vraie comédie excessivement bien maîtrisée.
Ah oui, on rigole beaucoup. Bob, c'est un metteur en scène un peu folklorique quand même, hein?
Ben oui, c'est drôle parce qu'on a fait d'autres entrevues où je venais jouer des rôles de Québécois où on n'était pas du tout dans le folklore, même on n'expliquait pas ses origines, mais là on est...
Oui, il y a 2 mois tu jouais un SDF qui venait de gagner l'auto.
Exactement, et là on est à fond, on est le pied à fond là-dedans. J'étais très conscient de la fonction que je venais servir aussi. Puis, ben dans une comédie, ça marche aussi parce que, je veux dire, l'accent, avec l'accent puis tout ça, puis aussitôt qu'on ouvre la bouche, ben les gens rient, tu sais. Puis évidemment, bon, les gens rient de Bob, mais tu sais, je veux, quand moi je suis fan d'Artus, puis le personnage de Momo, ce qu'Artus en a fait, c'est de la haute voltige là. C'est un clown, c'est un de vos grands clowns. Il est formidable, c'est une machine de guerre.
T'arrivais à garder ton sérieux tout le temps devant lui, justement quand il jouait, ça devait être difficile des fois, non?
Ben oui, c'est sûr que c'est difficile parce que Artus travaille beaucoup en impro aussi, et puis il change beaucoup de prise à l'autre, tu sais, il aime pas faire les mêmes vannes. Donc nous, on sait jamais à quoi s'attendre. Fait que oui, ça reste difficile de garder son sérieux, mais pour notre grand plaisir.
Eh ben écoute, franchement, 3 fois rien il y a 2 mois. Là maintenant, j'attends ce que vous faites. Bientôt un film aussi québécois dont tu viendras nous parler, qui s'appelle Au revoir le bonheur. Bref, dis donc, c'est Antoine Bertrand, c'est 2022 quoi.
Ben chez nous, on tourne plus, fait que fallait que je me trouve du boulot, donc je suis venu travailler ici. Non, mais je dis ça, mais c'est pas vrai, on tourne encore, puis je tourne encore beaucoup au Québec, puis moi je le prends toujours de la même façon, c'est-à-dire comme des beaux cadeaux, des parenthèses, j'appelle ça mes parenthèses françaises. J'adore venir ici, j'adore les Français. Donc pour moi, c'est juste c'est le beurre puis l'argent du beurre, mais c'est épisodique. Et puis à 45 ans, j'ai pas envie de mener une grande carrière ici. Je le prends comme des cadeaux, tout simplement.
Mais écoute, le cadeau, c'est déjà que tu sois avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce film. J'adore ce que vous faites, ça sort mercredi dans les salles. Merci Antoine d'avoir été une fois de plus avec nous.
C'est un plaisir.
Et à bientôt.
À bientôt, j'espère.
mais en fait je leur avais déjà dit oui avant que vous disiez non. C'est fou ce qu'ils vous ont fait. Le nez, franchement, c'est le plus impressionnant.
Waouh. Le nez, c'est le mien.
Il est super, le nez, Gérard. Hein.
Vous y arrivez jamais.
Et
vous.
Dans un instant, Artus nous rejoint pour la suite et la fin de notre spécial. J'adore ce que vous faites, alors surtout ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on continue à parler de J'adore ce que vous faites. Franchement, c'est vraiment notre film coup de cœur. Mercredi, ne le ratez pas. Et puis voilà, on a la star, c'est Momo. Oui, on l'adore. Artus, qui est notre invité. On termine cette spéciale avec toi, Artus. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Qu'est-ce qu'on a pu rire en voyant ce film. J'imagine les beaux moments que tu as dû passer aussi à le tourner, franchement, parce que il y a des moments, mais c'est tellement gros.
Ouais, en plus c'est un film qu'on a tourné post-confinement, donc j'avoue qu'on avait un peu envie d'en découdre et un peu envie de se marrer, donc ça a été une vraie récré et on a créé une bonne bande, on s'est bien marré.
Comment tu as appréhendé ce rôle justement de fan de Gérard Lanvin un peu envahissant?
En fait, ce qui est cool, c'est que c'est un film qui rappelle vachement les duos qu'on a connus de l'emmerdeur, du boulet, le clown blanc et l'Auguste. Et donc, quand on nous propose de jouer l'Auguste pour un humoriste et pour un acteur de comédie, c'est génial. C'est un rôle où on sait qu'on va pouvoir lâcher les chevaux et s'amuser. Et en plus, la guille m'a laissé beaucoup d'espace et beaucoup de personnalisation dans le rôle. Du coup, forcément, on s'est éclaté.
Franchement, nous on a ri du début à la fin. On s'est dit, mais face à Gérard Lanvin, la première fois que tu t'es retrouvé face à lui, tu t'es dit quoi là?
Écoute, ça s'est fait très simplement en fait, parce que Gérard il est très très humain et très voilà, il met pas de distance. Moi je suis assez cash aussi et assez direct, donc très vite on est devenu potes en fait. Et donc il y a pas eu, on a pas eu à se renifler le cul comme on dit. On s'est reniflé très vite. C'est deux chiens, deux mâles dominants qui sont arrivés. Moi je t'aime bien toi. Et voilà, donc ça allait très vite.
Alors ce trio est un peu complété quand même par Antoine Bertrand qui joue le réalisateur du film qui était avec nous il y a quelques instants. Il y a vraiment des scènes mais très drôles à vous trois. Mais est-ce qu'il y a un meilleur moment que tu retiens, toi? Une scène qui a été peut-être pour toi la plus drôle à jouer, où il y a eu un fou rire un peu incontrôlable?
Ouais, il y a la scène de quand je lui explique à la piscine tous les gens, s'il a besoin de contact. Il y a Lola, c'est une super coiffeuse, machin et tout. Et je pense qu'on a vraiment dû faire une pause dans le tournage parce que Gérard rigolait à chaque fois. C'est la fatigue, c'est le truc, parce qu'en soi, c'est même pas la meilleure vanne du film. C'est juste que je lui dis, il y a Lola, c'est une super coiffeuse, c'est elle qui me coiffe. Sauf que le moment, il a une coiffure, tout ce qui est le plus banal, mais il le vend comme si c'était, tu vois, c'est elle qui me coiffe, donc autant te dire qu'elle est pointue. Et à chaque fois, je le voyais, il était là, donc, il était juste en amorce, mais on voyait son épaule qui bougeait, donc on devait le refaire. Et franchement, voilà, sur celle-là, on a vraiment beaucoup ri.
Comment tu le définirais, toi, Momo? Il est attachant, je dirais.
Je pense que c'est vraiment le personnage qui correspond au mot attachant. J'aime pas ce mot, hein, parce qu'il fait vraiment Instagrammeuse. Mais il est attachant, c'est exactement ça. T'as envie de le baffer, mais en même temps, il est tellement touchant que t'as envie de l'aimer. Voilà. Il est juste maladroit, en fait.
Tu t'es rendu compte de ce que t'étais en train de tourner? Est-ce que franchement, pour moi, t'étais au sommet de ton art, t'es habitué à la scène. Pour moi, il faut quelqu'un qui est quand même habitué à la scène, à la réactivité, à être tout le temps vraiment dedans. Et franchement, je ne sais pas si franchement, sans cette expérience de scène, si ça aurait donné aussi bien.
Je sais pas si ça sera aux gens d'en juger, mais en tout cas, oui, moi j'ai pu rajouter des conneries, comme j'aime beaucoup l'impro sur scène et tout, j'ai pu en faire aussi dans ce film. C'est ça qui est cool, c'est que moi j'aime bien jouer les lignes qu'on me donne, mais c'est vrai, quand tu peux rajouter ta patte et rajouter des conneries quand il y a des conneries qui viennent, c'est dommage de s'en priver. C'est l'avantage du cinéma, c'est qu'on tourne, après on jette ce qu'on doit jeter, mais l'avantage c'est qu'on peut en faire trop et plus, et après c'est au réel d'avoir le cut final et du montage. Mais je pense qu'on a tourné deux films, je pense qu'on aurait pu faire un film de 4 heures sans problème.
Tu t'es imaginé avoir un fan pareil?
J'espère pas, je t'avoue. Je sais pas comment je réagirais. Mais si c'était ce moment-là, tu peux pas l'envoyer baser. C'est ça le problème. C'est que c'est pas quelqu'un. Il y a des gens qui viennent des fois un peu agressifs, un peu machin, un peu. On peut mettre une petite distance. Mais là, il est gentil. Les gens gentils, tu peux rien faire.
Ouais, c'est ça. C'est que tu peux rien lui refuser à Momo, en fait.
Exactement. C'est Momo. On a envie de le dégager, mais sans lui dire. Donc, faut lui faire comprendre, sauf qu'il comprendra pas.
Alors, moi, il y a des scènes qui m'ont fait rire, comme par exemple, mais il laisse la voiture s'en va toute seule. Il y a tout plein de scènes comme ça, mais qui sont mais tellement drôles quand il arrive. Mais la piscine, vous avez chié dedans ou pas? Mais il y a des trucs comme ça, mais des répliques, c'est hyper bien écrit. Le scénario est hyper, hyper bien construit, c'est super bien réalisé. Franchement, on passe 1h30, on pense plus à rien et on rit et on est avec vous. Et ça fait du bien, surtout en ce moment.
Écoute, c'est le but, hein. Moi, la comédie, que ça soit sur scène ou au cinéma, c'est le but, c'est ça. Le but, c'est d'oublier.
qu'on sort du Covid, qu'il y a la guerre, qu'il y a machin, c'est bon, allez, on sort, allez, pendant une heure et demie, on pose le cerveau, on rigole, et voilà, c'est vraiment le seul but.
Ben voilà, c'est le but ultime, effectivement, de ce film. J'adore ce que vous faites, c'est mercredi dans les salles au cinéma, le nouveau film de Philippe Guillard. On va parler juste de tes projets pour terminer, Artus. On te verra bientôt dans une série pour Amazon, Darknet sur mer, tournée en plus dans notre belle région du côté de la Charente-Maritime en Nouvelle-Aquitaine. Et puis je crois qu'il y a encore des dernières dates hein, de spectacle avant le prochain, en 2024, 2024. Si je m'abuse. Hein.
Tout à fait.
Je suis. Hein.
Ouais, putain, bien. T'as plus d'infos que ma mère, et pourtant elle suit bien le dos.
Ouais, mais je suis Sylvain, quoi. Beaucoup, moi. Je regarde beaucoup Sylvain.
Écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais non, ouais, plein de. Et puis pas mal de d'autres films qui vont arriver, des plus sérieux, des drôles, des un peu de tout. Donc je suis ravi qu'on me propose autant de choses différentes.
Et 2023 sera une année cinéma, comme ça.
J'espère, à moins qu'il y ait une vague 12.
Non. Écoute, hein, franchement, si on peut s'en passer de celle-là. Et puis on espère te revoir très vite pour Darknet. En tout cas, voilà. On reste en contact. Merci beaucoup, Artus.
Merci à toi.
Et puis on va se requitter avec un petit extrait parce qu'on va pas bouder notre plaisir. Et on te dit à très vite.
Merci beaucoup, à bientôt.
En tout cas, t'es canon.
Il manque plus que les boulets.
Oui, voilà.
Ça fait quoi, 3 jours qu'on se connaît? J'ai l'impression que ça fait 20 piges qu'on vit ensemble.
Bah pareil, c'est dingue, hein. C'est fou comme ça.
C'est quoi ça?
C'est une panne d'essence.
Je m'en vais, c'est pas de ma faute.
De ma vie entière, je suis jamais arrivé en retard.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé ce soir, eh bien, c'est pour Vision qui débarque sur TF1, votre nouvelle série événement. Et alors, entre deux chasses au lupin, on va dire ça comme ça, Soufiane Guérab est avec nous et notre invité et tu joues Romain, Soufiane, dans cette série. Bonjour.
Salut, ça va?
Oui, ça va très très bien. Je suis très heureux de t'avoir. Alors après t'avoir vu courir pendant 2 saisons après Lupin avec souvent pas mal donné, on va dire d'ailleurs, de la part de cet enquêteur. Eh bien, tu vas jouer un enquêteur aussi dans Vision ce soir, mais c'est un mélange de paranormal avec une enquête. C'est vachement bien fait, dis-moi Vision.
Ouais, franchement, on a passé 4-5 mois de tournage extraordinaire. En plus de ça. Ça nous a fait, enfin moi, ça m'a fait découvrir une partie de la France que je connaissais pas, les terres dans le sud et tout. Donc c'était vraiment un tournage extraordinaire avec un scénario, voilà, un super scénario, des super comédiens et un réalisateur Hakim qui a fait un travail extraordinaire. Donc c'est top. Franchement, on est tous contents du projet et de ce que ça donne au final. Voilà.
Ah oui, très beau travail de réalisation, de mise en lumière, en image, le décor, les décors montagnards aussi prennent une place importante dans cette histoire où on y suit ce petit Diego qui a d'étranges visions et qui vont venir se percuter un peu justement avec la disparition d'une jeune fille de 11 ans sur laquelle tu vas enquêter et cette disparition et tu vas essayer de faire le lien justement entre ces visions et cette disparition, voir si un lien existe en tout cas ou si ça peut aider. Mais il est incroyable ce petit Diego, dis-moi.
Ouais, il est extraordinaire. Franchement, voilà, Diego, c'est franchement une montagne dans un petit corps de petit garçon comme ça. Il est très professionnel. Il est adulte hein, dans son travail. Vraiment, nous, il nous a tous bluffé. Il a surpris tout le monde. Franchement, il fait aucune fausse note. Il fait rien du tout. Tout est juste. Il est extraordinaire. Il a pas besoin de parler. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les grands acteurs. Parce que je pense qu'il est bien parti pour avoir une belle carrière, ce Diego.
Alors tu partages l'affiche avec aussi Louane qui joue ta compagne, qui joue Sarah, une psychologue pour enfants justement, qui va essayer de comprendre un peu toutes ces visions et ces dessins que fait Diego. Ta rencontre avec Louane, comment ça s'est passé? Raconte-nous.
Oh, super, franchement, j'ai adoré bosser avec Louane. On s'était déjà croisé 2-3 fois parce que voilà, moi je suis souvent avec le Grand Corps Malade et elle a fait un morceau qui a pas mal tourné.
Derrière le brouillard, oui, magnifique morceau.
Derrière le brouillard, super morceau, voilà. Donc je l'ai rencontré 2-3 fois via la musique, pas via le cinéma. Et là, ça a été l'occasion pour moi de me rapprocher d'elle par rapport au cinéma. C'était super. Voilà, Louane, on sait tous c'est qui c'est un grand plaisir de pouvoir d'avoir fait ce projet avec elle et de m'être rapproché d'elle parce que au-delà d'être une super artiste, bon, c'est quelqu'un d'humainement génial, quoi. Donc moi j'ai adoré.
Dans quelques années, si on te reparle de Vision, c'est quoi qui ressortira pour toi?
C'est de faire avoir, je pense, la première fois un rôle principal dans chez TF1, quoi, dans une chaîne aussi forte et aussi importante pour moi. Voilà, je pense que c'est c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien. C'est on évolue, quoi. On essaye, on travaille. Et puis, toujours plaisir d'être sur des projets phares comme ça, de chaînes aussi prestigieuses.
Et oui, on a eu l'occasion de se croiser sur Les Beaux Mecs, un autre beau projet que tu avais amené jusqu'à Luchon au festival pour le coup. Mais alors cet autre beau projet dont on peut parler aussi un petit peu, c'est Lupin, puisque la saison 3, la partie 3 est en train de se mettre en place. Il va y avoir encore de belles aventures qui vont arriver bientôt sur Netflix aussi. Hein.
Ouais. Bon, on continue avec Lupin, on continue. Là, on prépare la suite. Enfin, on est dedans, on est en plein dedans justement, et ça arrive très très bientôt. Voilà, faut s'accrocher, ça va démarrer sur des chapeaux de roue.
Alors évidemment, quand on a un carton mondial comme celui de Lupin, tu commences à recevoir des messages dans toutes les langues. Là, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu prends vraiment conscience que la série, elle est visible partout dans le monde et qu'en plus, elle est en train de cartonner. C'est même un des plus gros cartons français sur Netflix.
Ouais. Non, mais vraiment, nous, on a vraiment pris conscience de ça. On a pris conscience de l'impact des plateformes aussi, parce que voilà, le truc est balancé en, je sais pas, peut-être 10, 20 langues sur toute la planète. Donc ouais, on a une proximité avec le monde entier, quoi. Ça veut dire que je peux très bien croiser un Espagnol, un Allemand, et ça m'arrive souvent, qui me voit et qui voilà, ont directement, c'est incroyable, c'est vraiment fou. C'est Lupin, c'est incroyable. C'est vraiment le fait d'avoir, c'est comme avoir gagné une Champions League ou une Coupe du Monde. J'ai l'impression que tout le monde est au courant, quoi.
Et alors là, ce qui est bien, c'est que tu peux plus t'exiler nulle part sans être reconnu, là, maintenant, après.
Bah ouais, c'est un peu plus galère, ouais. Je dois un peu plus me cacher, mais les gens sont remplis de bienveillance et c'est que de l'amour et tout, donc c'est super.
Bon, ouais, c'est chouette. En tout cas, on va te retrouver dans Vision ce soir sur TF1 avec les deux premiers épisodes. Ça va durer pendant 3 semaines, hein, puisqu'il y aura 6 épisodes en tout. Est-ce que t'as d'autres projets justement qui vont arriver à part Vision et Lupin dans les mois qui viennent?
Il y a d'autres choses qui vont arriver. Bon, je peux pas trop en parler, mais il y a des belles choses qui arrivent. Justement, Lupin déjà qui arrive très prochainement et d'autres projets aussi beaux.
Eh ben écoute, c'est génial ça. Ben, ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler.
Ben, j'espère. En tout cas, merci pour la force.
Eh ben écoute, on reste en contact et puis on te retrouve ce soir dans Vision à partir de 21h10 sur TF1 pour les deux premiers épisodes où tu seras aux côtés de tout plein de beau monde, Anne-Marie Vin, Louane Emera bien sûr, le petit Diego, vous allez voir qui est bluffant. Vraiment, vous avez passé un bon moment. Si vous aimez un peu le paranormal, le mystère, les enquêtes, vous allez être servi. En tout cas, je vous le dis, on va se quitter avec la bande-annonce et puis à très bientôt, Soufiane.
Allez, salut, je vous embrasse tous, merci pour l'écoute, ciao.
D'inquiétantes disparitions dans les Alpes, on est toujours sans nouvelles de la petite Lily, disparue maintenant depuis 5 jours.
Lily, je l'ai vue. Tu l'as vue dans ma chambre. Merci.
Il a quoi, mon fils?
Il voit des choses que les autres voient pas.
Notre coup de cœur télé est consacré à la doc Helvéto qui fait son retour demain sur France 3 pour notre plus grand plaisir. Et un deuxième épisode avec à la production Christian Gérin, toujours aux manettes. Bonjour Christian, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Thierry Benisti à la réalisation qui va nous rejoindre dans un instant accompagné de Dunia Cossins et puis Michel Simès qu'on retrouve évidemment dans le rôle de Pierre. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, un fidèle de l'émission aussi. Je suis très heureux de vous avoir parce que on a eu l'occasion de défendre le premier épisode. Moi j'ai adoré franchement cette histoire et ce premier épisode et je me suis dit mais va-t-on voir une suite? Et enfin voilà, elle arrive, deuxième épisode. Christian, c'était déjà conçu dès le départ en se disant on va peut-être en faire une série et si ça marche on peut développer sur plusieurs épisodes?
Bah, c'était évidemment notre espoir de ne pas faire une unitaire mais une collection ou une série. Les résultats d'audience ont encouragé la chaîne et aussi un résultat d'enquête de satisfaction auprès des téléspectateurs qui ont été, semble-t-il, sensibles à ce retour au terroir, à la ruralité et également à un style d'enquête où il n'y a ni policier, ni gendarme, ni meurtre, ni mort, ni meurtrier.
Ouais, on est vraiment dans le social, hein, puisque l'histoire à la base c'est Emma qui débarque à la campagne, qui est un peu une fille de la ville et qui vient s'installer. Et c'est tellement d'actualité aujourd'hui, les médecins qu'on cherche un peu partout en ruralité aujourd'hui. Michel, on a l'impression depuis Meurtre en Pays d'Oléron, où on a eu l'occasion de se rencontrer, c'était le premier rôle, que vous vous amusez de plus en plus.
Oui, et puis c'est le but, hein. C'est le but parce que je reste médecin avant tout, mais que j'ai aussi envie de faire des choses qui m'amusent, qui me plaisent, des choses nouvelles. Meurtre en Pays d'Oléron a été une sorte d'essai parce que je ne savais pas du tout si j'étais capable de jouer, je ne savais pas si j'allais pas être ridicule. Je sais que j'ai une chance extraordinaire, c'est que grâce à la popularité que j'ai pu acquérir avec la télé, on s'est dit tiens, on va lui filer un premier rôle, ce qui est quand même un truc complètement fou, parce que en général on commence plutôt par des petits rôles que par un rôle principal. Et je sais que c'est cette popularité qui m'a donné la possibilité d'avoir un premier rôle, et il fallait pas que je déçoive ceux qui me faisaient confiance, et Christian, Thierry Binisti, mes partenaires qui eux sont de vrais comédiens. Et voilà, j'ai été assez rassuré par le meurtre en Pays de Léron, ça s'est plutôt pas mal passé, et maintenant que je suis moins stressé sur un plateau, je prends de plus en plus de plaisir. Pour des raisons, sûrement pour me rassurer un petit peu, je voulais continuer à jouer un rôle de médecin, parce que encore une fois, je suis pas acteur, que jouer un rôle de composition, c'est quelque chose de plus compliqué. Je voulais me rassurer, et tout le monde m'a dit bon, c'est bon, alors, t'as été médecin dans Meurtre en Pays de Léron, maintenant il faut que tu passes à autre chose. Alors je passe progressivement à autre chose, parce que le rôle de Veto, ça, c'est quand même
On n'est pas loin, c'est le médecin des animaux.
Exactement, c'est le médecin des animaux, et surtout à la campagne, et c'est pour ça qu'on forme un duo avec Dounia. Le vétérinaire, il est un peu aussi le médecin de la tête des fermiers qui vont pas bien, parce que leurs animaux vont pas bien, que Dounia, elle vient de la ville et elle vient de Paris, et qu'il faut aussi lui expliquer comment fonctionnent les gens dans les campagnes. Donc il y a finalement, à part le fait que mes patients ont quatre pattes, le reste, et encore en tant que médecin parfois on met les patients à quatre pattes, hein, Christian, et et donc voilà, finalement c'est pas très éloigné de la médecine humaine.
Ah oui, il y a déjà deux nouveaux épisodes, ça va faire du pinceau à la planche, ça, Michel.
Oui, bah ça, oui. Après, ça demande de ma part des choix professionnels aussi, parce que quand on tourne un épisode, c'est au minimum 3 semaines, donc vous multipliez par 2 pour faire 2 épisodes. Dans un planning qui est déjà bien chargé, il a fallu que je fasse des choix que j'ai fait.
Alors dans ce deuxième épisode, on va y retrouver toujours Emma et Pierre, alors toujours chien et chat, hein, c'est ce qu'on disait les deux, hein, il y a une rencontre.
Je veux dire, ouais. pour un veto, ouais, effectivement. Ouais.
On a beaucoup ri, hein, franchement, sur le premier épisode, cette rencontre et ce choc un peu des cultures de la ville et de la campagne nous ont fait beaucoup rire. Alors que va-t-il se passer un peu dans ce deuxième épisode, Michel ?
Alors, il faut pas que je spoil, mais dans le deuxième épisode, il va y avoir des petits soucis avec des jeunes qui s'emmerdent tellement là-bas qu'ils vont faire des petites conneries, histoire d'aider un des leurs qui a envie de partir à l'étranger. Ils ont pas de sous, donc il va falloir en trouver. Donc une petite délinquance, pas grave, mais une petite délinquance quand même, une petite délinquance de campagne qui fait que Edounia et moi on va mener l'enquête pour aller retrouver les auteurs de ce petit larcin, qui bien évidemment dans un petit village a des conséquences beaucoup plus importantes que si des gamins vont piquer un truc en ville. Là-bas, ça, c'est aussi ça, la campagne.
D'une façon générale, dans chaque épisode, on essaye d'illustrer un thème. Dans le premier, c'était les épisodies et allant jusqu'au suicide des paysans. Dans celui-là, c'est le partir-revenir entre les jeunes qui ont envie de quitter le village et les gens de la ville qui veulent s'y installer. On essaye à chaque fois d'illustrer une problématique des territoires. Alors ça peut être dans d'autres, la désertification, ça peut être la misère affective, ça peut être l'agriculture raisonnée, écolo ou productiviste, ça peut être, voilà. Donc à chaque fois, on a un thème principal, et comme il y a à peu près une quinzaine de thèmes que rencontrent ces territoires, tous territoires confondus, ça nous fait une promesse de pouvoir illustrer 15 thèmes.
Et de faire au moins 15 épisodes, du coup. Voilà, ce qui est pas mal. Dounia et Thierry vont nous rejoindre dans un tout petit instant. Alors, on va écouter la bande-annonce. Michel et Christian, restent avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.
Mais vous êtes malade !
Chut, déjà, c'est moi !
Pardon, je vous ai pris pour un voleur.
Eh, venez voir.
C'est le pire, c'est le bar, pire qu'une alarme.
Refaire cet escalier.
Et vous croyez que c'est le moment de critiquer l'escalier, là ?
Qu'est-ce que tu fous ?
Mais il est trop mignon, je le prends.
De toute façon, avec tout le refus que vous avez fait, ils sont partis. Allez, on a lui.
Allez, de retour, c'est demain sur France 3, vous allez pouvoir voir enfin la suite. La Doc et le Veto, on attend avec impatience évidemment de découvrir. Et ça y est, ils sont arrivés. Thierry Benesti et Dunia Cossens sont arrivés avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là aussi. Alors on a planté un petit peu le décor avec Michel, avec Christian. On va parler réalisation évidemment et on va parler d'Emma. Plaisir de retrouver Emma pour la deuxième fois, Dunia.
Ah oui, moi j'adore Emma. J'adore Emma parce qu'elle a, bon, elle a ce côté un peu décalé, elle est parisienne, elle s'adapte à la campagne et puis je trouve qu'on forme un beau duo aussi avec avec Michel et j'aime beaucoup parce qu'elle peut être, bon, elle est à la recherche de sa famille, tout ça, donc il y a des côtés très touchants chez elle et puis elle est assez cash, donc il y a aussi pas mal de comédiens rajoutés là-dedans, donc je suis très heureuse de la retrouver. Ouais.
On a tellement eu l'impression déjà sur le premier épisode que vous êtes tellement amusés tous les deux avec Michel.
Non, on s'ennuie. Non, on s'amuse beaucoup et de plus en plus. Voilà, on trouve de plus en plus nos marques dans les personnages et tout ça. Donc c'est chouette, on se connaît de plus en plus aussi. Donc on forme un beau duo, je trouve.
Le fait de tourner à la campagne, de couper comme ça un petit peu pendant 3 semaines, 1 mois, parce que vous êtes sur tous les plans tous les deux, donc du coup vous restez quasiment sur place au moins les semaines. Est-ce que ça fait du bien, cette coupure, ce bol d'air frais qui vous attend tous les deux à chaque fois pour ce tournage?
C'est super quand on se casse pas le pied. Sinon, on reste enfermé. Non, c'est super. C'est une très belle région. Voilà, moi je me prends plaisir à aller me balader. Enfin, c'est vraiment, il y a des lumières formidables. Franchement, je pense que toute l'équipe, hein, Thierry, c'est aussi agréable à filmer. Donc on est très heureux d'aller tourner là-bas.
Michel?
Ah mais moi j'ai découvert l'Auvergne et puis quand je tournais pas, je prenais mes chaussures de rando, mon sac à dos et j'allais faire les démarches pendant des heures tout seul à découvrir. C'est absolument génial. Et puis le fait de tourner là-bas fait qu'effectivement on est complètement isolé de notre environnement et professionnel autre et notre environnement privé aussi, et on est complètement en immersion. Et c'est important parce que nous qui ne sommes, enfin moi je ne suis pas je suis pas de la campagne. Je vis à Paris depuis toujours. Et donc, pour bien s'imprégner aussi du rôle et de ce qui se passe à la campagne, on y vit. Donc, on est vraiment dedans et on est au milieu de l'Auvergne. Le soir, quand on va dîner, on va dîner dans les restos du coin, la bonne bouffe auvergnate. Et puis, on vit au milieu de ce monde rural. Quand vous partez de chez vous, de votre hébergement et que vous allez au boulot, vous traversez toute la campagne, vous passez à côté des fermes dont on raconte l'histoire finalement. Donc, c'est une vraie immersion.
C'est une vraie immersion, Thierry. On l'évoquait il y a quelques instants, à demi-mot, mais on va y revenir, Dunia, sur ce pied. C'est casser le pied en plein tournage. Alors, comment, quand on est réalisateur, on arrive à essayer de trouver des parades pour qu'elle tourne quand même et la faire courir?
Bah, effectivement, ça, c'est la veille du tournage que Dunia m'a appelé pour me dire que malheureusement, en prenant le train dans son escalier, elle est tombée, elle s'est cassée le pied. Donc d'un coup, tout s'arrête parce que c'est quand même l'actrice principale du film. Le scénario était écrit pour la voir aller partout, d'une ferme à l'autre, prendre sa voiture, courir, arrêter. Enfin, bah, rien n'était fait pour quelqu'un avec deux béquilles et un plâtre. Donc on a réfléchi un bon moment et puis on a rusé parce que le cinéma, c'est quand même l'art de l'art du fou. D'une certaine façon, et on a réussi grâce à une belle doublure qui était à notre disposition et à la mise en scène de permettre que chaque séquence puisse se réaliser avec les mouvements naturels. Et puis après, en adaptant aussi, il y avait une séquence de jogging par exemple où elle avait tout un dialogue avec un comédien à côté d'un comédien qui courait. Bah ça, on a adapté.
Et puis il faut dire quand même que t'avais une chance quand même sur le coup. C'est que t'avais un médecin pendant tout le tournage sur place. N'est-ce pas?
Mais une fois qu'elle était plâtrée, je pouvais pas faire grand chose. Le fait d'être médecin sur le tournage, moi, me donne un autre rôle qui est vachement sympa et puis que je partage avec Dunia, c'est de lui expliquer les gestes médicaux, comment elle doit prendre un stéthoscope, comment elle doit examiner un patient, etc. Et donc on discute beaucoup avec ça. Je lui ai donné comment on prend la tension artérielle, voilà. Parce que l'idée, c'est que moi, ce qui m'énerve, donc quand je vois des films où il y a des médecins, c'est quand ils mettent le stéthoscope à l'envers, par exemple. C'est un truc qui me rend dingue, ou quand ils mettent les radios sur le négato à l'envers. C'est-à-dire que vous avez le cœur qui est tourné vers la droite. Je comprends pas qu'il n'y ait pas au minimum un conseil médical. Moi, par exemple, comme veto, on a une veto dans le coin qui est venue m'aider, qui m'a expliqué avec l'éleveur sur le premier épisode comment il fallait mettre bas une brebis.
Et plein de bons conseils, Michel.
Ah bah oui, vraiment. Enfin, c'est un plaisir de l'avoir parce que c'est il est très plein de bons conseils et puis moi ça m'apprend plein de choses et puis ça me met vraiment à l'aise dans le jeu de pouvoir me débarrasser de tout ça. Et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il vient aussi quand il tourne pas et que j'ai des scènes où j'ai beaucoup de manipulations à faire. Donc merci, Michel.
Et dans un prochain épisode, on fera un examen à toucher rectal. Donc il va falloir forcément que je lui explique. Je disais que c'était pas très loin du métier de médecin, si ce n'est que mes patients, ils ont quatre pattes, mais parfois on est obligé de mettre le patient à quatre pattes, et c'est ce qui se passera dans un prochain épisode où je vais aider Dounia à bien savoir examiner.
Bon, en tout cas, vous avez l'air de beaucoup vous amuser. Alors, on le disait il y a quelques instants avec Christian, le 3 et le 4 sont déjà sur les rangs, donc évidemment, vous êtes tous prêts à empiler. Thierry à la réalisation, évidemment.
Oui, et c'est avec plaisir qu'on se retrouve, et avec plaisir surtout qu'on explore chaque fois davantage une région, et surtout les problématiques de l'ensemble de la ruralité. C'est un petit peu le but de cette collection. C'est à travers ces deux personnages, notre doc et notre veto, d'explorer tous les problèmes, tous les aspects d'une grande, grande partie de la France.
Bon, en attendant de découvrir notre troisième et quatrième épisode touché, que Michel va nous apprendre, c'est pas encore écrit, c'est pas encore sûr.
J'insiste pour que ça rentre dans le scénario. Ça rentrera pas que dans le scénario d'ailleurs, mais ça, j'insiste quand même.
En attendant, on va découvrir le deuxième épisode dès demain à 21h10 sur France 3 pour notre plus grand plaisir. La doc Elveto fait son retour. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Dounia. Merci Michel. Merci Thierry. Merci Christian. À très bientôt. Merci.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé va s'intéresser à La Faute à Rousseau qui fait son grand retour. C'est mercredi sur France 2 pour notre plus grand plaisir avec une nouvelle salve de 6 épisodes pour cette deuxième saison et on a une bonne partie de l'équipe technique et comédien aujourd'hui. On a Lou Gauthier, la productrice qu'on avait eue l'année dernière justement. Bonjour Lou.
Bonjour Alain.
Et puis en vrai, cette année, c'est bien,
oui.
Hein, n'est-ce pas? On a Octave Raspail également, le réalisateur de cette deuxième saison. Bonjour Octave.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le héros, on peut appeler ça comme ça, hein. C'est notre héros et puis un sociétaire de l'émission, Charlie Dupont, qui est quasiment tous les ans avec nous. Quel bonheur de t'avoir avec nous, Charlie.
Mais avec grande joie, sociétaire, j'aime bien. C'est comme la comédie française, mais en version belge, c'est parfait. De la comédie belge, c'est bien.
C'est ça, avec une version chez ton écoute la télé, voilà, c'est chouette. Bon, en tout cas, quel plaisir de vous revoir dès mercredi, de retrouver notre professeur Benjamin Rousseau. Il est complètement barré quand même, Benjamin Rousseau, hein, en quelque sorte, hein, il est atypique quand même.
Il est gentiment à côté de ses pompes, ouais. Il y a quelque chose de paradoxal chez lui, c'est que il est très vigilant, très pertinent sur les autres et pas tellement sur lui-même.
Bon, on va y revenir sur ce personnage. Lou, on va commencer déjà par le côté production. J'imagine qu'une saison 2, c'est un beau cadeau, déjà.
C'est super, enfin, d'avoir la chance de pouvoir développer ce personnage, de continuer à suivre ses aventures, de découvrir une nouvelle classe d'élèves parce que on va avoir des nouveaux personnages, des nouvelles problématiques, des nouveaux sujets philo et avec quelques redoublements quand même. Et quelques ados qu'on va retrouver avec notamment Grégoire Paturel et évidemment Louis Dunton, le fils de Benjamin Rousseau, qui interprète le fils de Benjamin Rousseau.
Alors, ce qu'on disait, une saison 2, c'est toujours un cadeau, effectivement, et de pouvoir développer un personnage aussi, c'est un cadeau non seulement pour la production, pour le réalisateur et pour le comédien. Et en réalisation, Octave, moi, je me suis toujours posé une question. Quand on est dans une série scolaire, en quelque sorte, comme ça, comment on fait pour que tout le monde soit attentif? Parce que des fois, il y a des scènes où, voilà, il y a des fois 2-3 personnes, mais là, quand ils sont 20, comment on fait?
Eh ben, on parle avec eux. Ça se fait tout naturellement. En fait, les cours de philo sont intéressants, ludiques. Et donc, en fait, dès que Charlie commence justement à répéter, les enfants, je les appelle les enfants, se reconcentrent et justement participent et vivent la séquence comme s'ils étaient vraiment étudiants. Donc, en fait, ça se fait tout naturellement.
Prends des moments comme ça, justement, des fois où tu laisses tourner, en fonction de ce qui se passe à la fin, justement, de la prise.
À la fin, j'aime bien laisser tourner, voir ce qui va se passer. Voilà, et pousser le plus possible. Et voilà, parfois il y a des choses qui sont sympas et qu'on garde très justement. Ouais.
Charlie, tu fais quelques petites impros ou pas toi?
Jamais, non, c'est vraiment pas du tout le genre de la maison.
Ça va pas l'air d'accord, hein. Il va avoir son droit de réponse après.
si, non, il y a, c'est-à-dire que quand j'ai des grands cours de philo, je cite Camus, je cite Nietzsche, machin, je peux très peu improviser. Il s'agit de plutôt coller à ce qu'il a dit, le philosophe. Mais en dehors de ça, il y a justement
comme disait Octave, pour garder l'attention des élèves et faire en sorte que le plateau reste ludique, je crois qu'il faut rester dans rester dans l'instant et dans la situation pour que on devienne pas justement comme certains vrais profs peuvent l'être, strictement théorique et plus du tout dans l'instant quoi. Je crois que le jeu c'est de ne pas jouer et de faire en sorte que Benjamin, que ce soit en fait Charlie qui s'adresse aux acteurs encore plus que Benjamin qui s'adresse au rôle.
Lou, c'est une série qui est un prétexte avant tout pour traiter les problématiques des jeunes aussi. Et chaque épisode traite une problématique différente. Alors il va y en avoir évidemment encore sur ces 6 épisodes. Alors quelles vont être les problématiques traitées cette saison ?
Alors nous avons la question de la responsabilité. Beaucoup de questions identitaires, notamment avec le personnage de Léna sur la transidentité. Il y a la question de la guerre, sur des questions de discrimination positive. On a la question du choix avec le personnage interprété par Myra Schmidt, et nous avons la question du harcèlement qui est traitée et la famille.
C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de sujets traités sur ces épisodes. Octave, oui. On va reparler un petit peu réalisation. En combien de temps on arrive à mettre en boîte une saison comme ça ? C'est 3 mois à peu près ?
Alors moi j'ai fait les 3 premiers épisodes. C'est Anne Fassio, une réalisatrice qui a fait les 3 prochains, enfin les 3, 4, 5, 6. Comment on fait ? Eh ben, une vaste question. On fait ce qu'on peut exactement.
C'est toi qui as réalisé en attendant les 2 épisodes qu'on va voir mercredi, les 2 premiers.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comment on fait ? Eh ben, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on essaie d'y répondre, on fait appel à parfois des aides extérieures, on achète des livres, on discute avec les comédiens, un peu les auteurs aussi, Lou, voilà, et ouais, on travaille.
C'est clair. Charlie, il y a des moments particuliers, des scènes drôles qui ont pu être, alors évidemment, soit devant ou derrière la caméra, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu qui vont rester en mémoire de cette saison 2 qui t'ont fait vraiment mourir de rire ? Parce que je sais que t'es pas le dernier à déconner un petit peu quand même.
J'aime ça la plaisanterie. Il y a plein de moments, en fait, j'ai plus de souvenirs finalement de moments touchants, parce qu'il y a des vraies rencontres avec des jeunes acteurs, et donc c'est ça moi qui me bouleverse finalement le plus et que je retiens le plus dans cette saison, c'est que comme en saison 1 d'ailleurs, je me retrouve face à des individus de jeunes acteurs qui sont pleins d'une sève absolument salvatrice pour l'avenir du cinéma français, et avec qui je rigole pas mal aussi. J'ai pas de souvenirs. Il y a évidemment 1000 anecdotes burlesques et à caractère cocasse. C'est-à-dire que quand c'est ce que j'appelle le syndrome de la cocotte minute, quand on est sous pression ensemble pendant de nombreuses semaines, il y a forcément des moments où ça, en fait, moins on peut rire, plus on rit. Et comme il y a des moments où il faut vraiment mettre en boîte des choses, et parfois très, on se rend pas compte souvent que dans des scènes dramatiques sont l'objet de fou rire avant et après les prises, que c'est pas parce qu'on va pleurer dans la prise qu'on peut pas rire juste avant ou juste après. Et comme il y a beaucoup d'émotions, que je me retrouve face à beaucoup de jeunes élèves en pleurs, et ben donc ça rit beaucoup.
Il y a une belle alchimie entre toi et Louis. Entre le père et le fils, il y a vraiment, je crois que ça a dû être une belle rencontre aussi personnelle pour vous deux.
Bah, c'est une des grandes chances pour moi de cette aventure, c'est ma mère et mon fils. Annie Dupéret est merveilleuse, actrice extraordinaire et humainement formidable. Et Louis, Annie, je savais qu'elle était une actrice formidable. Louis, je l'ai rencontré, découvert, et c'est pour moi un des grands espoirs du monde. C'est un mec formidable et c'est un acteur prodigieux qui fait des propositions très... animal comme ça, qui est très 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 intuitif et qui voit très juste dans les scènes, je trouve, et qui arrive avec une des propositions très fortes. Donc c'est très agréable de jouer avec lui. Gloire à Louis.
Annie Dupéret, j'aurai toujours une maman assez imposante ou pas ?
Imposante, ça c'est pas le bon mot. On voit tout de suite une histoire de poids, de non, c'est pas
envahissante.
Non, elle c'est une mère qui prend de la place et j'espère qu'elle continuera à prendre de la place dans les saisons à venir.
Bon, en tout cas, merci de nous offrir cette belle saison 2. On découvre les 2 premiers épisodes. C'est donc mercredi. On évoque les projets, Charlie, pour 2022. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tournées, qui vont être diffusées aussi, en plus de La Faute à Rousseau?
J'en ai bien peur.
T'en as bien peur, pas nous. Non, on est content de te retrouver.
Là, je suis en train de tourner maintenant un film qui s'appelle Répercussions, réalisé par Virginie Wagon. C'est une belle histoire où je joue un fantôme. C'est l'histoire d'une culpabilité d'une bande de potes qui ont laissé partir un de leurs amis bourré à la fin d'une soirée qui se crache. Et donc il revient en fantôme chatouiller leur culpabilité. C'est un très joli film, je crois. Et nous aurons le plaisir également de retrouver trouver le film de Michel Hazanavicius à l'affiche duquel je suis, qui s'appelle Z comme Z, qui est un film de zombies, qui devrait sortir bientôt sous peu. J'ai validé l'affiche hier, elle est très jolie.
Super. Bon, côté production, ça va se décider très vite, puisque vu que la saison 2 arrive, on croise les doigts pour une troisième saison. Vous êtes déjà en préparation, en écriture?
On est actuellement en écriture d'une troisième saison et on espère que la deuxième saison va bien marcher et pouvoir continuer à proposer les aventures de Rousseau au public.
Octave, est-ce qu'en réalisation, il y a des projets aussi qui arrivent à part Faute à Rousseau?
Oui, Tandem, la huitième saison de Tandem, si je me trompe pas, c'est la huitième, tout à fait, voilà. Avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.
Une belle série tournée du côté de Montpellier aussi. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On se quitte avec la bande-annonce, c'est mercredi. La Faute à Rousseau fait son grand retour. À bientôt.
À bientôt.
Je vais pas y aller, moi.
Tu vas y aller au lycée, parce qu'il y a que là que t'es bon.
Il est où, le prof?
Ah, je sais pas.
Est-ce que je peux agir sur mon destin? Est-ce que si j'ai 17 ans et que je suis enceinte, il est écrit que je ne pourrai pas faire HEC? Inès, t'as un point de vue sur la question?
Mais de quoi il se mêle, celui-là?
Pourquoi il me retombe dessus à moi?
Tu déchaînes les passions, Chopin.
Tu crois que c'est comme ça que ça marche?
Bah alors comment ça marche?
J'essaie de t'aider.
T'es un mec bien, en fait.
Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un père comme ça?
Je suis le maître de mon destin.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera une spéciale homme au bord de la crise de nerfs. Audrey Dana et son équipe Michael Gregorio seront nos invités exceptionnels pour en parler. Nous aurons pour la première fois dans l'émission le duo de Tandem ensemble. Oui, Stéphane Blancafort et Astrid Veillon pour le retour de la série Tandem seront nos invités exceptionnels. Mayra Schmitt également et Louvia Bachelier, deux jeunes du lycée avec le professeur Rousseau, avec le prof Rousseau. Eh bien, sont nos invités également grâce à cette série qu'on va encore mettre à l'honneur donc la semaine prochaine. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.